Chapitre 20. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Demanda Monique lorsque le train qui les ramenait se trouva en vue de la ville.
Ben, rien du tout, répliqua Marin. D'abord, ça les regarde pas.
Est-ce qu'on sait que nous revenons ?
Ben, tu as été malade, tu me l'as écrit, j'ai été te chercher, je te ramène. Est-ce que ça ne te suffit pas ?
Tu as assez changé pour que ça ne surprenne personne. L'instant d'après, ils se trouvèrent tout seuls sur le quai de la gare. La vieille diligence, attelée de ses trois chevaux, attendait dans la cour, sous la direction d'un nouveau conducteur qui ne connaissait pas les jeunes gens. Les questions oiseuses que Marin redoutait beaucoup plus qu'il ne voulait le laisser paraître, leur furent ainsi épargnées. Au moins pour quelques heures. Le soleil se couchait dans sa gloire lorsque les chevaux s'arrêtèrent au haut de la côte située en face de Chamsay. Un rayon d'or, dans lequel dansaient des myriades de poussières et d'insectes, enfilait la vallée qui seule les séparait maintenant du village. « Descendons ici, » dit Marin. Monique obéit en silence. Depuis la veille, elle faisait tout ce que lui disait son ami, sans la plus petite velléité de résistance ou la moindre demande d'explication. Il s'était peu parlé, d'ailleurs, excepté pour les nécessités matérielles du voyage. Il n'avait pas échangé 10 phrases. La diligence descendit la côte au grand trot et disparut pendant que les deux jeunes gens prenaient un chemin de traverse qui devait les conduire à la maison de Clémence. C'était un sentier tortueux, juste assez large pour qu'une charrette y pût passer, mais assez étroit pour qu'elle laissât aux ronces pendantes une partie de sa charge de paille ou de foin. Le fond en était de grosses roches brunes dénudées par les pluies d'hiver, et aussi par un ruisselet qui, échappé d'une source claire du haut de la route, franchissait bravement les obstacles, se jetant à gauche ou à droite quand le quartier de roc était trop gros, et qui, sous l'ombre des frênes croisés au-dessus de lui, réfléchissait encore, çà et là, quelques coins de ciel bleu, dans un bassin microscopique creusé dans le gravier par le pied lourd d'un cheval. Marin marchait devant, choisissant sa route. Monique le suivait, regardant à terre pour éviter les faux pas. Tous deux pensaient en même temps combien c'était étrange de se voir la tête sous ces arbres et les pieds dans cette eau familière où ils avaient passé tant de fois ensemble ou séparément. Étrange, n'était-il pas plus étrange encore ? Que ce fut un étonnement pour eux de se revoir dans ce pays où leurs yeux s'étaient ouverts. Que d'événements avaient dû se passer pour que 6 mois après leur fiançailles, ils fussent surpris de se revoir en un tel lieu. Le sentier s'élargissait au fond de la vallée, prairie verte et touffue que traversait une petite rivière joyeuse, puis remontait vers l'autre versant caché sous les buissons qui couronnent les baies. Mais à l'endroit où une pierre plate formait un pont primitif, une échancrure dans les collines laissait voir la mer, tout près, bleue et brillante comme on le voit seulement à certains jours de fin d'hiver ou de premier printemps. La mer ! Monique s'arrêta, plus blanche que son petit bonnet, et s'appuya des deux mains sur le mur en pierre sèche qui clôturait la prairie. Des deux côtés du mur se dressaient de hautes touffes d'ajoncs sombres, piquées de fleurs d'or comme un ciel nocturne et piqué d'étoiles. « La mer, » dit-elle très bas, « ô marin, et les fleurs de l'Ande, te souviens-tu du jour où nous avons cueilli la fougère ?» Tout à coup, elle poussa un gémissement et s'abattit la face contre terre. Effrayé, Marin se pencha sur elle, voulant la relever. Elle refusa de se laisser toucher et resta couchée sur le sol humide, le visage caché sur un de ses bras.
Non, non, dit-elle, étouffée par ses sanglots, j'aurais pas dû revenir ici, t'as eu tort de m'amener. Je ne suis pas bonne assez pour revoir le pays et la mer et les landes et tout et tout. J'étais heureuse, j'étais honnête, je n'avais rien sur le cœur, rien sur la conscience. Et maintenant, oh, ramène-moi quelque part, Marin, mais pas ici, oh non, pas ici.
Le soleil baissait. Le rayon avait quitté le fond de la vallée et n'éclairait plus que la crête des collines couronnées d'ajoncs éblouissants. « Monique, fit la voix grave de Marin, ta place est dans ton pays. Si tu as du chagrin de t'y revoir autre que tu n'en es parti, ce sera ta punition. Il faut souffrir, Monique, quand on a fait le mal. Ce n'est que juste et personne ne peut t'empêcher ça. » Mais tu souffriras toujours ici moins qu'ailleurs, puisque tu auras des gens pour t'aimer. La vallée était tout à fait solitaire. Seules les grandes vaches blanches et rousses levaient la tête dans les pâturages en écoutant la voix humaine.
« Mais je n'ose pas regarder les gens, » dit Monique qui sanglotait convulsivement. « Je n'ose pas revoir ma mère. » Mais qu'est-ce que je lui dirai? Et qu'est-ce qu'elle dira en me voyant revenir en cachette comme une honteuse?
Personne n'a rien à dire, fit Marin avec autorité. Il n'y a ici qu'une seule personne à blâmer, c'est moi. Monique se souleva sur le coude et regarda son ami.
Toi, et grand Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut te reprocher?
D'avoir manqué de patience et d'avoir été te chercher à Rouen, te détournant de tes devoirs, te faisant désobéir à ta mère afin de nous marier tout de suite. Monique se dressa péniblement, s'appuya au mur bas et, les yeux toujours fixés sur Marin, lui dit à voix basse
« Mais tu sais bien que nous ne pouvons plus nous marier ?»
« Et pourquoi ?» fit le jeune homme avec la vibration d'une joie enthousiaste et profonde dans sa voix mâle qu'il contenait. « Qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous marier puisque je te veux pour femme et que tu as consenti ?»
Elle le regardait toujours, pensant « Est-ce qu'il aurait trop de chagrin et que son esprit se serait brouillé ?» Est-ce qu'il ne se souvient plus de ce que je lui ai dit hier soir?
Marin lut dans ses yeux. « Oh, je te comprends, dit-il. Non, Monique, rien n'est changé. Je voulais tuer quelqu'un, tu n'as pas voulu, tu as bien fait. Mais puisque je reste vivant et que personne n'a rien à me reprocher, c'est pour cela qu'il faut que je t'épouse. »
Monique se détourna en pleurant. « Oh, je n'oserai jamais être ta femme, » dit-elle.
« Il le faut pourtant. »
Elle baissa la tête. Mais s'il avait pu lire dans son cœur, il aurait vu qu'en lui obéissant, elle acceptait le plus cruel des châtiments. Être sa femme et savoir qu'elle ne serait pas sa femme honorée, c'était pour l'orgueilleuse Monique une humiliation aussi douloureuse que le remords même. C'était l'incarnation du remords qui vivrait à ses côtés et qui la torturerait jusqu'au plus secret de son âme dans les caresses de l'époux.
« On se moquera de nous, dit-il. On dira que nous étions bien pressés. Tout cela ne fait rien. Je suis capable de le supporter, il faut que tu fasses de même. » Tâche de ne pas être trop triste et surtout. »
Il s'arrêta, la regardant avec une inexprimable tendresse.
Tu vois bien, dit-il plus bas, que je n'ai pas osé t'embrasser.
C'est de peur de te faire de la peine, Monique, mais je t'aime autant qu'avant, plus qu'avant. Tu es si malheureuse, ne pleure plus, je t'en prie. Cela me fait trop de mal. Elle essuya docilement ses yeux et le regarda avec une soumission touchante. Le soleil avait tout à fait disparu. La vallée aurait été déjà presque sombre si le ciel chargé de nuages roses ne l'avait éclairé d'un reflet pourpré. « Voici la nuit qui va tomber, » reprit Marin. « Allons, viens, que ta mère ne sache jamais rien. Elle a eu tort de nous séparer, mais si elle savait ce qui s'en est suivi, elle serait trop punie. » Monique se mit en marche à son côté. Marin avait dit vrai. Son châtiment serait le silence. Ce serait l'estime publique qu'elle avait cessé de mériter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le silence envers lui, gardé par crainte de l'affliger, serait plus lourd sur le cœur de la coupable que tout le reste à la fois. Il l'ignorait, lui, mais Monique le savait. Ils arrivèrent devant la maison de Clémence sans avoir été rencontrés par personne. L'heure tardive les favorisait. La porte était close, mais par la fenêtre on voyait briller la mèche fumeuse du jonc qui trempe dans l'huile de la petite lampe de fonte, de forme antique particulière au pays, et qu'on nomme un grasset. Au moment où Marin s'apprêtait à lever le loquet, Monique l'arrêta en lui mettant la main sur le bras. « J'ai peur, » dit-elle. « Il le faut, » répondit-il. Et il entra. Clémence était agenouillée devant le feu qu'elle allait allumer pour préparer son maigre souper. Au bruit de la porte, elle se retourna et ses yeux perçants reconnurent Varin. « Vous, » dit-elle en se levant soudain, « mais que venez-vous faire ?» Il avait eu l'idée de la préparer par degrés. Mais il n'était pas orateur et son éloquence se trouva prise en défaut. « Je vous ramène votre fille, » dit-il. « Elle a été malade. Pour ne pas vous tourmenter, c'est à moi qu'elle a écrit et je suis allé la chercher. »« Où est-elle ? » fit Clémence. « La voilà. » Il s'écarta un peu et Monique parut si blanche qu'elle avait l'air de sortir du cercueil. « Mon Dieu, comme elle est changée !» s'écria la mère. Sur un geste de Marin à peine indiqué, Monique s'était approchée. Elle présenta sa joue à sa mère suivant l'usage. La politesse de ces êtres encore mal façonnés, semblable à celle des sauvages peaux rouges, les oblige à se montrer impassibles alors que les âmes sont agitées des sentiments les plus vifs. « Asseyez-vous, » dit-elle, « vous n'avez pas soupé. »« Non, 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 nous avons quitté la diligence à la côte et nous sommes venus par le petit chemin pour ne voir personne en route. » « Vous avez bien fait, » approuva Clémence. « Ça m'aurait fâché si quelqu'un vous avait parlé avant moi. » Elle s'était remise à sa besogne et la flamme monta bientôt dans la cheminée. « Tu es guérie, au moins ?» demanda-t-elle à Monique. « Je le pense, ma mère, » répondit la jeune fille. Un grand calme était descendu sur elle avec la contrainte. Forcée de se maîtriser, elle perdait la notion de sa propre douleur. Clémence la regardait, tout en s'approchant des détails et s'occupant des détails du ménage. Monique voulut se lever et l'aider. « Tiens-toi tranquille, » répondit la mère, « tu as besoin de te reposer. » « Et cette maladie, comment est-elle venue ?»« Bon, elle s'est trop fatiguée, »
fit Marin, qui voyait les lèvres de la jeune fille remuer sans qu'elle pût proférer aucun son. « Je voulais vous dire, ma mère !» Et il appuya sur ce mot qui soulignait ses intentions. « Qu'il ne faut plus nous faire attendre. Monique ne doit plus quitter Chancet. La ville ne lui convient pas. Et comme c'est moi qui l'ai ramené, qu'on pourrait jaser, il faut nous marier tout de suite. » Clémence le regardait attentivement pendant qu'il parlait. Elle reporta ensuite les yeux sur sa fille et se dit qu'il avait raison. Quel que fût le motif qui les avait tous deux ramenés au pays, leur mariage était à présent la seule solution possible. « Nous causerons de ça demain, » fit-elle, « mais je dis pas non. » Après avoir pris quelques bouchées de pain rôti trempées dans du cidre bouillant, ce qui représente aux yeux des habitants de ce pays la nourriture la plus reconstituante après les fatigues ou les émotions, Marin se retira. En quittant Clémence, il lui dit « Bonsoir, ma mère. » En saluant Monique, il l'embrassa sur la joue, gravement, silencieusement. Celle-ci sentit son cœur se fendre de désespoir. Hélas, par sa faute, elle avait tué en elle la douceur des baisers du seul homme qu'elle eût vraiment aimé. Dans la nuit noire, Marin retourna chez lui. Son pied retrouvait sans hésitation le sentier familier, foulé tant de fois pendant que son cerveau bouleversé retournait sans pensée confuse. Était-ce peu de mois auparavant qu'il était passé là, triomphant, sûr de l'amour, de sa fiancée? Était-ce ce temps-là qui était un rêve ou bien l'heure présente? Sa main introduisit la clé dans la serrure rouillée qui résista un peu, puis la porte s'ouvrit, et l'odeur de moisie propre aux demeures basses trop longtemps fermées le frappa au visage. Dans la vieille maison délaissée, la tristesse, l'abandon et la nuit tombèrent sur lui comme des reproches amassés en silence. Bien vite, il alluma du feu, arrangea son grasset, mit des draps au lit humide et se coucha, espérant oublier dans le sommeil la hantise de ses pensées douloureuses. Mais il ne dormit guère et plusieurs fois dans la nuit se releva pour mettre du bois au feu ou de l'huile dans le grasset. Sur la mer, les pêcheurs sortis cette nuit-là remarquèrent avec étonnement que le feu de la maison Bonamie, éteint depuis si longtemps, s'était enfin rallumé. Chapitre 21. Quand Champcet s'éveilla, tout le monde savait que Marin avait ramené Monique à sa mère. Qui l'avait dit le premier? Mystère. On les avait peut-être vus traverser les vallées. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils étaient revenus et que tout le monde le savait. Monsieur Mao, informé de ce fait, parut grave mais content. C'est que monsieur le maire était un homme sérieux. Dès les premiers jours qui avaient suivi l'assassinat de madame Dunois, il avait reçu une lettre du parquet demandant des renseignements sur Monique. Une lettre de la sœur de madame Mao avait suivi, annonçant les faits et ajoutant d'ailleurs que celle-ci était convaincue de l'innocence de la jeune fille. Comme mère, M. Mao avait répondu, donnant les meilleurs renseignements sur sa petite protégée. Un homme moins avisé eût parlé de la chose à sa femme. M. Mao était plus fin. Il savait qu'un mot sorti de sa bouche informerait aussitôt tout le pays d'un événement que l'intérêt général est de tenir secret, quel que dût être le résultat de l'enquête, et il garda le silence. De temps en temps, lorsqu'il rencontrait Clémence, il demandait des nouvelles de sa fille, et lorsqu'elle lui répondait qu'elle n'en avait pas reçu depuis le nouvel an, il lui disait d'un air bonhomme,
Point de nouvelles, bonne nouvelle. Allez, Clémence, s'il y avait quelque chose, on vous aurait écrit. » C'est ainsi qu'il avait sauvé les apparences en attendant que le jour se fît. Pas plus que sa belle-sœur, il ne croyait à la culpabilité de Monique. L'accusation de complicité de vol devait paraître absurde à des gens qui connaissaient l'honnêteté proverbiale des Briquet. Si la prévention, autrement envisagée, eût indiqué la possibilité d'une violence, M. Mao eût été moins sûr de son affaire. Il connaissait Clémence et sa fille pour leur caractère orgueilleux et emporté et n'eût pas risqué de se porter garant pour elles. Mais l'idée, qui ne devait venir au juge d'instruction qu'à la dernière minute, n'effleura même pas la pensée des autres. Les journaux que M. Mao suivait avec une attention particulière depuis qu'il était averti avaient bien mentionné le crime de Rouen et l'arrestation d'une petite servante, mais sans donner de nom. Depuis, rien n'avait plus paru d'inquiétant. Puisque Monique était revenue, c'est qu'on avait abandonné la prévention. Le maire de Champsay résolut de garder le silence. C'était déjà assez cruel pour la pauvre fille d'avoir passé plus de 6 semaines en prison. Revenue au bercail, elle ne devait pas s'y croire un instant l'objet d'un doute injurieux. Marin n'avait aucune idée de la procédure. Aussi était-il à 100 lieues de supposer que M. Mao eût connaissance de ce qui s'était passé. C'est le front haut et d'un air tranquille qu'il vint, dans l'après-midi qui suivit son retour, le prier, suivant l'expression consacrée, de les afficher afin que le mariage pût être accompli sans retard. Il redoutait quelques plaisanteries du brave homme qui, tout en conservant sa dignité, ne daignait pas quelquefois de rire en semblable occasion. Aussi fut-il presque surpris de voir le regard de grave approbation que lui jeta M. Mao. « Ma promise est un peu malade, » dit Marin en manière d'explication. « C'est pour cela qu'elle n'est pas venue avec moi, monsieur le maire. Vous voudrez bien l'excuser, elle viendra dimanche. » « On m'a dit qu'elle est très changée, » dit Mao avec sollicitude, « pauvre petite, la ville ne lui a pas profité. » Marin jeta un regard profond sur le maire et comprit que celui-ci en savait plus qu'il n'en voulait dire. « Mais elle est changée, en effet, » répondit-il, « elle a eu des chagrins. Sa mère a eu grand tort de l'envoyer loin du pays, mais je ne veux pas l'en blâmer. À présent que nous allons être mariés, tout ira bien. » M. Mao donna au jeune homme une poignée de main comme s'il n'en donnait pas souvent, et ils se séparèrent contents l'un de l'autre. Les visites affluaient chez Clémence, mais celle-ci n'était pas encourageante, et l'on eut bientôt fait de se le dire. D'ailleurs, Monique reparut dès le lendemain au Douai, où elle commença à préparer la grande lessive qui, dans ce pays, précède les noces. On lui fit les questions les plus variées. Elle y répondit par des monosyllabes, presque toujours, et de temps en temps par un « Oh, ça m'ennuie de parler de ces choses-là !» qui arrêta les curieuses. On décida entre soi qu'elle était devenue bien fière à la ville et que pour ce que ça lui avait rapporté, elle aurait bien fait de ne pas y aller. Puis on ne songea plus qu'aux noces prochaines. Ce fut le jour de la Quasimodo, premier dimanche d'avril, que la grand-messe dite, la bénédiction nuptiale fut donnée aux jeunes gens que M. Mao avait mariés à la mairie 1 heure auparavant. Quand ils sortirent du porche, ils furent accueillis par un feu roulant de mousqueterie.
Les garçons se privent rarement au village d'une si belle occasion de faire du bruit sans être réprimandés. On put voir alors, sous le grand soleil qui répandait des torrents de lumière, combien Monique était pâle. Le petit bouquet de fleurs d'oranger attaché à son bonnet ne tremblait pas. Elle marchait d'un pas tranquille, sa main dans celle de Marin, aussi pâle qu'elle et aussi ferme. Mais son regard semblait voir au-delà du monde réel des choses mystérieuses, invisibles pour les autres. À cette heure solennelle qui lui donnait le nom d'un autre, qui transformait son être en un autre être, soumise à une volonté nouvelle, à de nouvelles servitudes, songeait-elle à l'avenir ou seulement au passé ? Les cloches tintaient au-dessus de sa tête, mais leur son fêlé n'avait rien de commun avec la grande harmonie qu'il avait terrassée autrefois. La mer était loin, et le bruit de ses vagues n'arrivait pas jusqu'à l'église de Chancey. On pouvait, en ce moment, dans ce milieu, oublier le passé. L'oublier, oh non! Marin avait tourné la tête du côté du buisson de roses qui couvrait la tombe de sa sœur. Le feuillage du rosier s'était seulement assombri, marqué çà et là de quelques points rouges par les gelées légères du matin. La croix se voyait mieux. Le nom de Victoire était plus lisible sous les branches d'un vert foncé qui semblait presque noir, mais le lieu était le même. Les coups de fusil continuaient à crépiter sur la place, et par une bizarrerie de son imagination maladive, Monique tressaillait à chacun d'eux avec une vague terreur comme si une balle échappée par mégarde devait venir la frapper. Mais en voyant le mouvement de Marin, en sentant qu'il se ressouvenait de cette belle journée de juillet où il l'avait baisé près de la tombe de Victoire, la jeune fille sentit le cœur lui manquer. « Emmène-moi, » dit-elle tout bas, « allons-nous-en. » Elle ne pouvait pas regarder cette évocation de son passé de bonheur innocent. C'était pour elle une épine ajoutée à celle qui lui déchirait le cœur, et de ces épines-là, la plus récente semblait toujours la plus cruelle. Le cortège se déroula, accompagnant les mariés jusqu'à la maison de Clémence. Un repas de noces était dressé pour quelques proches seulement, parmi lesquels M. Mao. Il s'excusa sous un prétexte. En réalité, la vue de Monique lui faisait mal. Sans se douter de la profondeur de la blessure dont saignait la pauvre âme, il pensait qu'elle souffrait de la honte de son séjour en prison, et il ne voulait pas être témoin de sa tristesse. Le dîner de midi eut lieu comme toujours en pareil cas. Clémence avait fort à faire, aidée de quelques voisines, pour servir ses invités. Immobile et droite, à côté de Marin, à la place d'honneur, Monique répondait au toast et au salut en s'inclinant gravement, sans une parole. L'usage du pays autorisait d'ailleurs ce silence que partageait Marin. C'était aux invités à témoigner de la gaieté, mais ils étaient pour la plupart vieux et sentencieux. Bientôt, ils se mirent à parler des affaires du village, avec l'accompagnement obligé d'un peu de politique saugrenue, et les jeunes gens ne furent pas forcés de se mêler à leur conversation. Vers 3 heures, le repas s'acheva, et les convives s'éclipsèrent chacun de leur côté. La noce n'était pas gaie, on ne pouvait se le dissimuler. Ce n'était pas ainsi qu'on s'était imaginé fêter le mariage des deux plus beaux enfants du pays, mais... « Chacun est heureux à sa manière, » disait un bonhomme philosophe. Et Bonamy n'avait jamais été un joyeux compère. Allez faire un tour, dit Clémence à ses enfants, quand les hommes se furent retirés. Nous n'avons pas besoin de vous pour remettre les choses en place. Les jeunes mariés sortirent de la maison, se tenant par la main, ainsi que c'était leur droit et que le commandait l'usage. Mais à peine étaient-ils hors de vue que leurs mains se dénouèrent, et ils continuèrent à marcher côte à côte, séparés l'un de l'autre par un abîme moral où ils ne pouvaient trouver moyen de jeter un pont. Instinctivement, Marin avait pris le chemin qui menait à la falaise. Les jeunes pousses hâtives se montraient au buisson que le chèvrefeuille enlaçait triomphalement de sa précoce verdure, toujours la première à saluer le soleil. L'herbe était épaisse et touffue au talus du chemin, bordé de primes verts. Les oiseaux jasaient dans les arbres en faisant les nids. La mer se montrait bleue, frangée de blanc au bord des houles profondes venues du large, et le vent chantait dans les branches des pommiers, déjà boutonnées de fleurs rosées à peine sorties de l'écorce. C'était une joie alerte et bruyante où se sentait l'activité de l'année nouvelle, pressée de se mettre au travail. Ils passèrent le long du Douai sans s'y arrêter. Ce n'était pas là qu'ils pouvaient se parler sans être entendus. Ils allèrent s'asseoir sur les rochers où ils avaient causé secrètement le premier soir de leur libre fiançailles. Et là, seul sous le soleil, en face du ciel et de la mer, ils osèrent lever les yeux l'un sur l'autre. « C'est toi qui l'as voulu, marin, » dit Monique. « Je ne regrette pas, » répondit-il. Ils restèrent silencieux. Tant de pensées se pressaient dans leurs âmes qu'ils ne pouvaient les exprimer. Depuis leur retour, ils ne s'étaient jamais, pour ainsi dire, trouvés en tête à tête. Les courts moments où ils eussent pu échanger quelques paroles ne leur inspiraient pas la sécurité nécessaire aux confidences. Et d'ailleurs, à quoi bon parler? Autrefois, Marin eût recherché avec avidité la moindre occasion de saisir la main de Monique ou de lui baiser la joue. Maintenant, au contraire, il avait semblé fuir ces hasards, et Monique, dans le fond de son âme navrée, lui en avait su gré comme de la plus délicate attention. Ils étaient mariés dorénavant, alors qu'allait-il se dire? C'est Monique qui commença. « Tu aurais mieux fait de me laisser là-bas, » dit-elle timidement. Il se leva et la regarda avec une sorte de colère. « Mais puisque je t'ai dit que je t'aime, est-ce que je pouvais vivre sans toi ? Vois-tu, Monique, lorsqu'on aime une personne, rien ne peut t'empêcher de l'aimer, pas même des choses comme celles que tu m'as dites. » « Mais on l'aime autrement, » répliqua doucement la jeune femme. « Ça, c'est vrai, on l'aime autrement. » répéta Marin pensif. Elle baissa la tête. Rien ne pouvait faire que le passé n'eût pas été. Rien ne pouvait rendre l'honneur, rien ne pouvait rendre la vie. Tu peux pas savoir le mal que ça me fait de voir les gens me parler comme si j'étais la même qu'auparavant. C'est tellement injuste que j'en suis honteuse et fâchée. Mais il faut t'y habituer, je te l'ai déjà dit, fit Marin d'un ton sage. Mais toi, reprit Monique, s'enhardissant et poussée par un irrésistible besoin de tourmenter la plaie de son âme, semblable à celui qui pousse à taquiner les plaies de son corps, si douloureux que ce puisse être, toi, tu peux pas avoir bonne opinion de moi. « J'ai grand pitié, » répondit le jeune homme. « C'est un très grand malheur, mais je t'ai dit que ce n'est pas ta faute. Si ce n'était pas arrivé, pourtant tu m'aimerais mieux. Probablement, répliqua Marin avec une sorte de gêne. Mais pourquoi me parles-tu de ça? Monique joignit les mains avec un geste de prière. Oh, Marin, dit-elle, songe à ce que ce serait, avoir ce secret entre nous et n'en pas parler, ne pas savoir ce que tu penses, mais j'en mourrais de chagrin. Il fit un geste mêlé d'impatience et de résignation. Il eût préféré laisser dormir ces choses. N'était-ce pas assez que d'avoir souffert par elles? Le passé devait être anéanti. Autant le laisser mourir doucement, pensait-il. Mais l'âme inquiète de la criminelle voulait savoir ce que pensait d'elle le maître auquel elle devait appartenir sans réserve. « Je t'aime, dit Marin, cela doit te contenter. » Il s'était rapproché et la regardait avec des yeux pleins de passion jalouse. Monique ferma les yeux avec un horrible frisson. C'est ainsi qu'elle avait vu jadis briller ceux de Monsieur Dunois. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Elle se dégagea avec une telle vivacité qu'elle tomba et faillit rouler en bas de la falaise. Il la ressaisit par sa jupe et la releva. C'est pas un endroit pour jouer à ces jeux-là, dit-il avec un léger tremblement dans la voix, tout pâle du danger qu'elle venait de courir. Elle détourna la tête. Faudrait-il qu'elle subît de telles impressions sans en mourir? Elle eût préféré 100 fois aller se briser tout à l'heure sur les roches noires que la mer couvrait et découvrait tour à tour. Non, c'en était trop. Elle n'avait pas cru à la possibilité d'une pareille torture. Elle avait pensé que Marin serait l'ami, l'époux, celui qui pardonne et chérit. Elle n'avait pas osé penser qu'il serait aussi l'amant. Lorsque cette idée lui était apparue, elle l'avait chassée comme une vision maladive et honteuse. Peut-être s'était-elle dit que le respect qu'elle portait à son mari changerait sa vie et l'essence même de sa vie, ou peut-être ne s'était-elle rien dit du tout, se laissant aller comme une épave, cédant à la volonté de celui qui l'a sauvé de tout, de la honte, l'abandon et du suicide. Et la faute ne pardonnait pas. Entre l'homme vénéré qui, à Rouen, au bord de la Seine, lui était apparu comme un ange sauveur, qu'il avait relevé et consolé, et ce pauvre être meurtri, l'image du séducteur détesté, devrait-elle donc apparaître à jamais, profanant toutes les joies, souillant toutes les heures, faisant du mariage au lieu d'une consolation l'implacable revanche du passé criminel? Je t'aime, répéta Marin en s'asseyant tout contre elle, sur la même pierre. Il en avait le droit, personne n'y pouvait plus trouver à redire. Vaincue, Monique prit sa tête à deux mains et pleura. Son mari respecta ses larmes qu'il comprenait. Il l'aimait mieux pour ce chagrin. Elle lui devenait plus chère pour ses remords. Il l'eût méprisée si elle avait pris son parti de la tâche qui ternissait sa vie. Mais quand elle eut pleuré jusqu'à l'épuisement, il lui prit la main avec douceur et lui dit « Rentrons, il est temps. » Elle se leva docilement et remonta le sentier près de lui. Arrivée au Douai, elle s'agenouilla, prit de l'eau dans ses mains et lava son visage rougi par les pleurs. Ils rentrèrent ensuite dans la maison de Clémence, où l'ordre était déjà rétabli. Le soleil se coucha, puis des amis revinrent pour faire la conduite aux mariés. Les coups de fusil rayèrent l'ombre des chemins pendant qu'on les plaisantait sur leur heureux sort. Ils trouvèrent la porte ouverte, le feu allumé, le vin chaud sur la table. On but à leur santé. Ils trempèrent leurs lèvres dans les tasses fumantes. Puis on se retira et ils restèrent seuls dans la vieille maison des bons amis. C'était une nuit de grande marée. Le bruit des vagues, semblable à celui du cristal brisé, montait jusqu'au haut de la falaise. Vers 2 heures, un rayon de lune entra par la petite fenêtre sans rideau et dessina l'ombre d'un pommier dont les branches grêles formaient sur le sol une dentelle exquise. Monique, qui n'avait pas encore dormi, se rappela tout à coup un point de Venise cousu à une robe qu'affectionnait Madame Hortense. Son mari dormait d'un profond sommeil à ses côtés. Sa dernière parole avant de fermer les yeux avait été un mot de tendresse, mais depuis Monique n'avait pas cessé de pleurer sa honte. Tout à coup, elle songea à son crime, et à la douleur qu'elle croyait sans fond s'ajouta une autre amertume plus poignante. « Ce n'est que juste, » se dit-elle tout à coup, se rappelant ce qu'avait dit Marin, « il faut que les fautes se payent. Mais est-ce que je devrais vivre longtemps en souffrant comme cela ? Égarée, perdue dans l'horreur de cette pensée, elle regardait sur le sol la fine dentelle des rameaux. Soudain, elle revit le point de Venise, la chambre doucement éclairée, le visage pur et triste, le sourire irrésistible de Madame Dunois, et, mordue au cœur par une souffrance atroce, sans nom, « Oh, ma petite madame !» dit-elle tout bas en serrant son drap sur sa bouche pour s'empêcher de crier. « Ma petite madame, pardonnez-moi. » Chapitre 22. Il arrive parfois qu'un chagrin violent dont les occasions se renouvellent sans cesse anéantit pour un temps une autre préoccupation douloureuse, plus grave mais plus éloignée, et l'on croit alors avoir oublié celle-ci. Tout à coup, et par suite de quelques circonstances fortuites, elle se réveille et surgit énorme, absorbant à son tour ce qui précédemment paraissait prendre tout l'intérêt de la vie. C'est ce que le remords du crime faisait maintenant relativement à la honte de la faute dans l'âme de Monique. Pendant son emprisonnement, la jeune fille n'avait éprouvé que des impressions très confuses, quoique très douloureuses. L'instinct de la conservation lui avait suggéré la prudence. Sa promesse à M. Dunois lui avait fait une obligation du silence, et toute sa volonté s'était dépensée à se contraindre. Lorsqu'elle avait revu Marin, elle n'avait eu qu'une idée, lui dire la vérité afin d'échapper au réseau de fausseté dans lequel elle était prise depuis si longtemps. Elle avait pensé que lorsqu'il saurait son crime, il la repousserait avec horreur. Seule alors, dégagée de responsabilité, elle s'en irait dans la vie, essayant d'oublier, y parvenant peut-être, elle le croyait du moins. Et voici qu'au contraire, le pardon du fiancé trahi l'avait rivé plus étroitement à une chaîne de devoirs qu'elle ne pourrait plus jamais briser. Impossible maintenant de secouer la tête et de chasser les idées douloureuses en disant « Je ne veux pas ». Son devoir était de se rappeler à chaque heure qu'elle était la fille déchue, élevée au rang d'épouse par la bonté d'un homme outragé. Marin l'avait dit, c'est ainsi qu'on expie. L'autre faute, le crime, Marin n'en parlait pas. Celui-là lui semblait pour ainsi dire moins grave, car il n'en était pas personnellement lésé. D'ailleurs, violent lui-même, il pouvait comprendre et excuser la violence. Mais Monique, après avoir mis de côté pendant longtemps la pensée du meurtre accompli par elle, s'en retrouvait soudain possédée. Tout ce qu'elle avait ressenti d'une façon vague pendant les semaines précédentes se précisait maintenant avec une exactitude épouvantable. Elle revoyait la chambre, la lampe, la chaise longue, les yeux noyés de pleurs de sa chère maîtresse. Elle revivait la scène horrible. Et par un excès de cruauté de la destinée, elle sentait la douleur de la perte de cet ami qu'elle avait aimé avec la ferveur d'une dévote. Frappée par une autre main que la sienne, Madame Hortense eût été pour Monique l'objet d'une éternelle pitié, mais tuée par celle qu'il avait adorée, la jeune femme devenait l'instrument d'une torture dont rien ne peut rendre l'intensité. Les premiers jours de son mariage passé, Monique était entrée dans une routine de devoirs et d'habitudes qui eût dû la distraire de sa préoccupation et qui, au contraire, l'y rattachait plus étroitement. Elle était redevenue paysanne. Rien de ce qui l'entourait n'évoquait la mémoire du temps passé à Rouen. Et au lieu d'encourager l'apaisement et l'oubli, ce contraste même poussait les souvenirs de la jeune femme à remonter vers ses jours néfastes. Vainement, l'un après l'autre, elle avait détruit ou modifié les objets contenus dans la malle que lui avait expédiée Toinette aussitôt après son départ. L'odeur de la malle, la vue de ses propres mains, blanchies par son séjour à la ville, évoquait quelque image qui se fixait dans son cerveau avec une persistance obstinée. Monique tombait alors dans des silences prolongés qui duraient des journées entières. Marin s'en apercevait, ne disait rien, pensant que c'était l'expiation, mais qu'un temps viendrait où l'âme, saturée de remords, se détacherait d'elle-même de sa préoccupation douloureuse et reviendrait à une sorte d'apaisement. C'est alors, pensait-il, qu'il pourrait parler à sa femme et la consoler par degrés. Marin se trompait. C'était précisément dans ses premiers jours qu'il eût dû exprimer à la jeune femme la tendre pitié qu'elle lui inspirait. C'est alors qu'elle avait besoin de se sentir encouragée et relevée par l'amour de celui qu'elle considérait comme un être supérieur, presque surhumain. Il ne s'en doutait pas. Lui ayant donné avec son nom la plus grande preuve d'amour et d'estime qui fut dans son pouvoir, il pensait qu'elle s'en rendrait compte, et il respectait le silence de Monique, qu'il considérait comme l'humilité naturelle d'une coupable qui ne pouvait encore se consoler de sa déchéance. Ils vivaient ainsi, côte à côte, sans se comprendre, lui, l'aimant de toutes les forces de son âme neuve, mais inhabile à exprimer ses sentiments, elle, vaincue, broyée, se disant que jamais elle ne se relèverait ni aux yeux de son mari, ni à ses propres yeux, lui, grave et bon, elle, soumise, dévouée, et navré. Clémence s'étonnait de la voir si sombre. Les belles couleurs auraient dû revenir aux joues de la jeune femme, à présent qu'elle était heureuse au milieu des siens, mariée à l'époux choisi. Le printemps était merveilleux cette année-là. Pas une tempête n'avait troublé la mer depuis la fin de mars. Il semblait que ce fût une fête éternelle sur la falaise et dans les vallons. Les gens de Champsay, peu poétiques cependant, ne pouvaient s'empêcher d'en être frappés. « Ce n'est pas naturel, » dit un jour Clémence à son gendre. « Monique ne devrait pas être triste comme elle l'est. Elle est donc bien malade ?»« Elle a eu de la peine à Rouen, vous ai-je dit ma mère, » répliqua le jeune homme. « Laissez-lui le temps de se remettre, et tout ira bien. » Clémence regarda Marin d'un air de doute. Elle avait déjà eu la pensée que quelque chose avait dû arriver à sa fille pendant l'absence, mais elle n'osait questionner ni elle ni lui. « Vous croyez que tout ira bien ?» demanda-t-elle avec une sorte de crainte. « Je vous le dis, » affirma mon ami. Il fallait bien se tenir pour satisfaite. Cependant, Clémence, qui avait volontairement évité pendant les premiers jours du mariage de visiter les jeunes époux, prit l'habitude d'aller passer une heure ou deux chaque après-midi auprès de Monique. La pauvre jeune femme avait l'esprit si malade que toute marque d'affection enfonçait le remords plus avant dans son âme. La présence de sa mère qui l'arrachait à ses pensées lui fit plus de mal que de bien, car si l'image du crime s'effaçait pour un instant, celle de la faute apparaissait plus vivante. Cette fois, elle eut envie de se jeter aux pieds de Clémence et de lui avouer tout. Il semblait à Monique que dans cet aveu, elle trouverait un nouveau soulagement. Mais Marin l'avait dit, elle n'avait pas le droit de faire porter à sa mère le fardeau d'une telle douleur. Elle ne devait pas lui infliger une honte imméritée. Le silence encore, le silence toujours. Oui, Monique expiait. Le beau temps même était un surcroît de tourment pour elle. L'orage ou la tempête en fouettant ses nerfs eussent peut-être amené une détente. Dans la vie calme du foyer, dans la calme tiédeur de l'air d'avril, l'esprit tourmenté de la jeune femme se repliait sur lui-même, pris entre deux tortures et n'évitant l'une que pour se rejeter plus follement dans les horreurs de l'autre. Un soir, Monique l'avait au douai, agenouillée sur le bord dans la petite boîte de sapin à peine dégrossie qu'on appelle une hotte, elle s'était attardée à son ouvrage. Une grosse pile de linge savonnée et tordue attestait la diligence de l'ouvrière. Les autres femmes étaient retournées chez elles pour préparer le souper. Mais Monique savait que Clémence devait avoir vaqué pour elle à bien des petits soins et qu'elle pouvait terminer sa tâche. Le ciel pâlissait au-dessus de sa tête et de minces traînées de roses cerises qui traversaient le zénith annonçaient le coucher du soleil. Elle se penchait sur le linge, le frappant à coups redoublés du battoir. Tout à coup, derrière la baie, elle entendit une voix fraîche de jeune garçon qui disait « C'est ça qui est joli au creux du Milan, les épis y sont fleuris, faut voir !» Monique posa son battoir, s'agenouilla sur ses talons et réfléchit. L'endroit dont parlait l'enfant était renommé pour la beauté d'un rideau d'aubépine qui, le printemps, le tapissait de fleurs et de parfums. Tous les ans, les enfants et les jeunes filles Ça faisait une sorte de devoir d'aller voir les épines blanches au Rubinland. On en parlait pendant 8 jours. C'était la curiosité du pays. Monique se souvint tout à coup de la promenade qu'elle y avait faite l'année précédente. Elle y était allée avec les filles de M. Mao et plusieurs autres. Tout le long de la route, on avait ri et jasé à perdre haleine. Là, on avait rencontré des garçons, peut-être pas tout à fait par hasard, et tout le monde était revenu ensemble. Sur la route, le groupe joyeux avait croisé Marin, qui avait soulevé son chapeau et salué d'un air grave. Comme il l'avait regardé, je s'en souvenais maintenant. Une bouffée de jeunesse et d'indépendance passa dans le cerveau surmené de la jeune femme. Rangeant en hâte son linge et son battoir dans la hotte, elle appela le garçonnet qui avait parlé et lui dit d'emporter le tout chez elle, puis elle partit d'un pas alerte, presque joyeux, dans la direction des aubépines. C'était assez loin. Les bancs de cerises du ciel devenaient roses pâles. Aurait-elle le temps de revenir avant la nuit? Elle se mit à courir. Quelle bonne idée elle avait eue d'aller aux aubépines! Ses jambes étaient revenues, car elle courait sans fatigue, et dans sa tête se chantait une ronde du pays que les filles fredonnent volontiers en marchant. « À la Saint-Jean, ma fille, j'aimerais qui m'aime, des oranges il y a !» Et l'obsession de la musique était si forte que Monique cessa de courir et se mit à marcher vite, en scandant son pas sur le rythme de la chanson qu'elle fredonna d'abord tout bas. Peu à peu, elle chanta plus haut, et soudain, elle entendit sa voix claire retentir dans le vallon désert. Ce fut une surprise pour elle, et elle s'arrêta étonnée. Il lui avait semblé que jamais, plus jamais, elle ne pourrait chanter ni rire, et voilà que les rondes du pays revenaient d'elles-mêmes dans sa bouche. « Eh bien, pourquoi pas ? » dit-elle tout haut, en regardant autour d'elle d'un air de défi. Et elle reprit sa marche en chantant à pleine voix. Le creux du Hubiland n'était plus bien loin. Au détour du chemin, elle aperçut la déchirure du sol tapissé d'aubépines, qui semblait placé là pour le plaisir des yeux. Monique se tut et ralentit le pas. C'était une sorte d'amphithéâtre semi-circulaire, un de ces commencements de vallées comme on en trouve partout dans les pays accidentés. Une source claire et peu profonde sortait du sol, bordée de cressons et de roseaux, et au-dessus, le superbe manteau d'étoiles parfumées drapait la nudité des roches. La jeune femme devint grave. La beauté de ce lieu solitaire, que quelques paysans seuls admiraient tous les ans, lui inspirait une sorte de respect. L'odeur d'amandes amères exhalée par les fleurs la pénétrait et la grisait un peu. Et puis, il y avait là tant de souvenirs d'enfance. Rien de pénible ne pouvait venir à l'esprit devant cette incarnation du printemps. Monique s'approcha de la source avec une sorte de timidité affectueuse, comme si c'eût été une amie à laquelle on pouvait demander une caresse. Les pétales des fleurs tombées sur l'eau transparente flottaient comme autant de petites coquilles délicates et transparentes, et la jeune femme se pencha pour les voir de plus près. Tout à coup, un léger mouvement se fit dans les joncs. Monique tressaillit, car elle était devenue peureuse. Un son plaintif suivit. Elle recula avec un frisson d'angoisse. On n'entendait plus rien. Le jour baissait rapidement. Elle pensa qu'il était grand temps de rentrer et tourna la tête du côté du village. Un bêlement si faible qu'il avait l'air d'un vagissement se fit entendre presque sous ses pieds. Monique fit un pas en avant, écarta les herbes et vit un tout petit agneau tombé de la crête des rochers au travers des aubépines qui était resté là meurtri et brisé de sa chute. « Pauvre petite bête !» dit Monique, dont le cœur compatissant fut pris d'une sollicitude maternelle. Elle se pencha, passa ses mains frêles sous l'agneau et l'emporta dans ses bras. Elle savait qu'elle devait en être le propriétaire et voulait le lui rapporter. Peu à peu, elle sentit une odeur fade qu'elle ne reconnut pas tout d'abord et qui, soudain devinée, fit passer sur elle un long tressaillement qui la secoua à plusieurs reprises. Elle ouvrit les bras et l'agneau glissa à terre en exhalant un faible soupir. Sous la réverbération des nuages encore teintés de rose, Monique regarda ses mains et son tablier. Elle était couverte de sang. Un cri d'inexprimable horreur sortit de sa poitrine et, affolée de terreur, elle prit sa course vers le village. Ce sang sur elle, le dernier soupir de l'agneau semblable à celui d'une créature humaine, c'était l'avertissement du destin qui ne voulait pas lui permettre de jouir d'une minute de joie et d'oubli. Elle se rappelait en courant comment dans la chambre de Madame Hortense elle s'était souvenue du regard de l'autre agneau blessé par les chiens, et la lugubre scène se dressait devant elle dans toute sa funèbre réalité. Mais tout serait donc pour elle une persécution. Dans ce pays où les agneaux sont plus nombreux que les arbres, rencontrerait-elle à chaque pas la personnification du remords? Toujours courant, elle arriva chez elle. « D'où viens-tu, si tard et pleine de sang ?» dit Clémence, qui l'avait attendue avec inquiétude. « Ben du Ubiland, il y a un agneau mort sur la route, j'ai voulu le rapporter, je n'ai pas pu. » Elle parlait brièvement par saccades. Marin parut sur le seuil, et dans les yeux de sa femme, il eut l'horreur profonde de l'implacable souvenir. Secoué lui-même par la pensée d'une peine qu'il ne pouvait sonder, mais qui devait être atroce, il se pencha sur elle et lui donna un baiser. Monique se laissa tomber sur un banc et tordit ses mains d'un geste résigné dans son désespoir. En levant les yeux, elle vit sa mère qui l'observait. Aussitôt, elle sourit, se leva, prit une écuelle d'eau, s'y lava les mains et changea le tablier. C'est une fantaisie que j'ai eue d'aller voir les épines blanches, dit-elle à son mari qui évitait de la regarder. L'agneau doit être un bon fils. Il faudra le lui dire pour qu'il l'envoie chercher. » Elle parlait d'un ton tranquille. Clémence lui reprocha d'avoir couru trop vite. « Tu n'es plus une petite fille, » lui dit-elle d'un ton sévère. « Quand on est marié, on est raisonnable. » Monique ne répondit rien.